vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la querelle annuelle sur Noël avec Geneviève Lajoie et Patrick Bellerose au sujet de Facebook. Émilise Lessart-Thérien rentre dans le rang de Québec solidaire. Et dans les négociations du secteur public, il y a une lueur d'espoir, ce qui coïncide avec le retour de Magali Picard de la FTQ de Dubaï. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
Émotionnel ou rationnel? Rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Mais bonjour, Guillaume Lavoie.
Antoine Robitaille, bonjour.
Expert en politique publique et covoiturophile. Parlons. Il y a un mot par jour, hein?
C'est très, très bon. Franchement, j'ai toujours hâte.
Faisons maintenant l'analyse sportive de la période de questions. Premier sujet, la reconstruction des routes. Moi, je suis content que tu attires notre attention sur le rapport de la vérificatrice générale dont il a été question à la période de questions. Et ça portait évidemment sur ce rapport-là, le transport et l'état des routes.
Oui, c'était la première question de l'opposition officielle en disant, mais là, le rapport du vérificateur général vient de sortir. Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement vu que c'est de sa faute? Et là, ben, il y avait la réplique après ça de la ministre des Transports, Mme Guilbeault. Mais là, tu dois avoir un extrait pour nous, Antoine.
Oui.
Ce qui ne nous a pas empêché, en plus d'investir plus que jamais en transport collectif, d'investir presque 60 % de plus d'argent dans notre réseau routier que le Parti libéral qui l'a laissé à l'abandon et on ramasse les conséquences aujourd'hui.
Je vous parle de la vérificatrice générale, je vous parle d'un rapport de 2018 à 2022. Et ça, c'est exclusivement le gouvernement de la CAQ. Le déficit accumulé pour la période représente 3,6 milliards.
Alors, on a entendu d'abord Geneviève Guilbeault qui disait que c'était la faute des libéraux. Et ensuite, André Amorin qui, lui, faisait référence au rapport qui vient d'être déposé, qui porte sur les années caquistes, là, et où il y a un déficit d'entretien important.
Oui, et là-dessus, franchement, d'abord, plein de choses. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est à partir de quelle date le gouvernement en place, quel qu'il soit, n'a plus le droit de dire « Oui, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui étaient là avant. » Alors, au moins, on va faire avancer le débat, là. Je veux savoir, c'est quoi cette date-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu prends les choses, puis tu prends les bons coups puis les mauvais coups, puis c'est tout toi parce que tu es au gouvernement?
Ça fait 18 ans que je couvre les affaires parlementaires. Je pense qu'il n'y a pas de date.
Ah oui?
Je pense que c'est infini. J'ai entendu Philippe Couillard en 2018 parler des mises à la retraite du Parti québécois qui dataient de 1997.
Hey, Seigneur. Puis, tu sais, puis s'il y a des problèmes informatiques à la SAC, là, n'oublions pas que Pierre-Olivier Chauveau n'a rien fait dans le dossier.
Il s'occupait juste des livres. Il s'intéressait juste aux livres.
Hey, c'est tellement triste. Hein? Même s'il était premier ministre en 1867, il n'a rien fait pour l'Internet. Alors, mais au-delà de ça, la critique, c'est vrai qu'il y a un déficit d'entretien dans le réseau routier québécois.
Oui.
Puis là, pour faire notre analogie sportive, j'aurais le goût que le gouvernement du Québec ici se mette en reconstruction. Et je ne veux pas dire littéralement de reconstruire les routes, mais arrêter que la seule solution possible, ce soit juste de faire ce qu'on faisait avant, soit de le faire plus ou plus vite, bref, toujours mettre plus d'argent. Il y avait un petit bout dans la réponse de Mme Guilbeault qui était intéressant, on va voir si ça se matérialise en disant, mais là, peut-être que ça nous prend des nouvelles techniques, ça nous prend une nouvelle manière de penser l'entretien annuel, de budgéter l'entretien à venir.
Oui, oui.
Parce que quand c'est juste plus d'argent, ça m'inquiète. À un moment donné, si quelque chose ne va pas bien, y donner plus d'argent, ça veut dire que ça va aller encore moins bien, mais plus vite. Mais, tu sais, Antoine, il y a une équation qui va devoir nous rattraper, là. Au Québec, on a plus de routes que nos voisins, mettons l'Ontario ou l'État de New York, et on est moins de monde pour les payer. Ben, à un moment donné, ou bien on paie beaucoup, beaucoup plus pour le faire, ou on n'est pas capable de le faire et l'entretien est moins grand. Regarde, on a presque deux fois plus de kilomètres routiers qu'en Ontario. Mmh. Et eux, ils sont 30 % de plus, là.
Mais oui.
Et tu sais, regarde, je regardais là, des ratios, là. Combien de citoyens ou de contribuables par kilomètre de route? Au Japon, c'est 111 payeurs de taxes, ou citoyens, en fait, par kilomètre de route. En France, c'est 74. Aux États-Unis, généralement, c'est 55. Au Québec, on est juste 35 par kilomètre.
Ah,
alors,
oui.
Ou bien il faut être plus nombreux pour payer, ou on a trop de kilomètres. Tu sais qu'en Iowa, où est-ce qu'on a le cas d'un État relativement grand pour une population très petite, le gouvernement commence à abandonner des tronçons de route en disant, si on ne concentre pas nos dollars sur certains kilomètres de route, eh bien, ou bien t'étends ça à la grandeur, puis c'est mal entretenu à grandeur, où tu dis, mais on va se concentrer sur ce qui fait du sens.
Oh, que ça doit être impopulaire, par exemple, d'abandonner des tronçons de route. T'imagines, au Québec, si on faisait ça?
Oui. Et là, on abandonne des tronçons de transport collectif, puis ça chiale pas tant que ça.
On dirait que ça serait la guerre à l'auto.
Oui, exactement. Mais fondamentalement, il y a une équation avec laquelle il faut...
C'est un concept stupide, je tiens à le dire. Oui, pardon.
Ouais. Il faut se réconcilier avec cette équation-là, ou sinon se dire qu'à chaque fois qu'on construit un kilomètre de route de plus ou en largeur, ben on augmente le futur déficit d'entretien ou les futurs budgets d'entretien. Mmh. Ça vient ensemble, ça.
La santé, maintenant, il y en a été question. Encore un échange entre André Fortin et le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Oui, et ça, j'appelle ça mon jeu. Il me semble que j'ai déjà vu une game comme ça avant.
Eh, mon Dieu, c'est répétitif.
Alors, en gros, c'était une critique. Résumons l'échange, là. Il y a des listes d'attente. Me semble que c'est terrible. C'est l'enfer. Faites quelque chose. Pourquoi vous ne faites rien? Et le ministre Dubé, ici, qui explique toujours là-dessus, donne-lui-donc ça, calmement et précisément, les raisons pourquoi il y a des listes d'attente. Et ces raisons sont conjoncturelles. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes particuliers qui se combinent. Donc ça, la tempête parfaite, selon lui, la pénurie de main-d'œuvre, la saison des virus, les environnements post-pandémie, puis la réorganisation du travail. OK, fort bien, j'accepte ça, Antoine, sauf que moi, qui est un fan fini de Yvon Deschamps, je vous rappellerai que Yvon Deschamps fait des blagues sur l'attente aux urgences dans les années 70.
Ah oui,
Antoine, hein? Il dit, il y a une mère qui attend pour que le médecin vienne l'accoucher, puis il dit, faites-vous-en pas, là, il va arriver à temps pour les vacciner pour l'école. Alors, si ça fait si longtemps que ça, que l'urgence est l'endroit où on va attendre. Mm-hmm. Ça veut dire que ce n'est pas juste des facteurs qui sont dus à des moments précis, là. Voici les fondamentaux de l'histoire de l'équation perdante pour les listes d'attente. D'abord, on centralise toujours un peu plus le système, ce qui tue l'innovation. Il y a l'avancement de la médecine. Il y a plein de choses maintenant qui fait qu'on peut aller à l'hôpital où on n'y allait pas avant. Alors là, c'est comme si la demande augmente. Mais fondamentalement, c'est la démographie, Antoine.
Ouais.
Tu sais que sur notre vie au complet, si on consomme 100 $ de services de santé dans notre vie, il y en a 95 de ces dollars-là qui sont consommés dans les 5 dernières années de la vie. Alors, nous, on a une population qui vieillit un peu plus que les autres.
Ça coûte
alors
cher.
Là-dessus, ça ne fait que commencer. On va avoir un problème insoluble là aussi. Alors, la critique, elle est valide. La réponse se tient, mais ce n'est pas conjoncturel. Ça fait longtemps qu'on joue dans ce film-là. Je pense que ça va durer encore très longtemps. Là.
2 minutes de pénalité pour avoir oublié la devise du Québec. À qui tu décernes cette pénalité?
Là-dessus, là, je sors mon sifflet. 2 minutes de pénalité bien sentie à Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Et peut-être qu'on est dans une espèce d'enflure là, d'expression. Il y a du verbiage exagéré, là. Et en gros, il posait une question sur la négociation avec le secteur public, sujet on ne peut plus important. Mm-hmm. Et là, je le cite presque au texte. On n'a jamais vu une aussi grosse grève dans toute l'histoire du Québec.
Il a vraiment dit ça.
Oui. Et là, je me disais, si notre devise, c'est « je me souviens », il en manque des morceaux, là.
Oui, puis il a bien dit « dans toute l'histoire du Québec ».
Oui, alors, il n'y en a pas laissé sur la table. Peut-être qu'il voulait dire numériquement, mais à ce compte-là, la population monte toujours. Alors, s'il y a une grève importante dans 2 ans, ça va être encore plus gros. Mais c'est comme oublier notre histoire. Hein? Mm. Antoine, en 1999, il y avait une grève illégale chez les infirmières. Ça a été vraiment dure, cassée par une loi spéciale.
Oui.
En 83, ceux qui vont s'en souvenir, c'est la loi 111, alias la fameuse loi Matraque, dont le Parti québécois se fait encore parler aujourd'hui, où le gouvernement avait décidé de baisser les salaires de 20 % des enseignants, entre autres, pendant 3 mois.
Mais il y avait surtout, eu une grève importante à ce moment-là,
oui,
qui avait été cassée par la loi spéciale. Oui.
Et, mais moi, pour moi, si on veut trouver le pire exemple ou l'exemple le plus aigu, c'était 1972.
Ben oui.
Le Front commun était sorti. Il y avait une loi de retour au travail. Les 3 chefs syndicaux avaient décidé de défier la loi et le gouvernement de M. Bourassa n'avait pas eu d'autre choix que de les mettre en prison. On est à des années-lumière de ça, là. On pourrait même dire que, à toute proportion gardée, ça se passe plutôt bien si on compare avec les autres exemples importants
ben oui,
dans l'histoire. Alors, c'est de là, bien. Dire que c'est la plus grosse grève de toute l'histoire du Québec, ben là, je ne sais pas si dans la tête de Québec solidaire, l'histoire commence là, il y a 10 ans, mais il en manque des gros morceaux. Là.
Et François Legault a rappelé un élément de la négociation actuelle, c'est-à-dire que le gouvernement est prêt à augmenter son offre. Donc, il a rappelé ça à la mémoire du chef de la deuxième opposition. On peut écouter François Legault.
Je pense que le co-porte-parole de Québec solidaire, comme on dit en bon québécois, a manqué une bonne game. Parce que j'ai été très clair, et puis le président du Conseil du Trésor l'a été aussi, on est prêt à augmenter l'offre de 14,8 % d'augmentation de la masse salariale. Par contre, ce qu'on demande en échange, pour le bien des citoyens québécois, c'est de changer les conventions collectives, enfin changer les conventions collectives.
Donc, enfin changer les conventions collectives, il veut dire, au fond, avoir un peu plus de souplesse, là.
C'est ça. Et c'est là-dessus, le vrai point de cette négociation-là, ce n'est pas le point salarial. C'est tout ce qui est le non-salarial, c'est l'enjeu clé, c'est la priorité du gouvernement. Je pense qu'il ne l'explique pas assez ou pas assez bien, parce qu'il y a certainement de la résistance du côté syndical, mais le côté syndical va avoir de la difficulté à dire qu'il ne veut pas qu'il y ait de plus de flexibilité dans le travail. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'on revient toujours dans le débat public à l'enjeu salarial? J'espère que non. Parlons de la... Dans le fond, dans une négo, il faut s'assurer de parler de ce dont on veut vraiment parler. Ça rend les négos plus productives, souvent. Là.
On termine avec les deux systèmes de jeu qui s'affrontent. Et ça, la question était posée au sujet de l'investissement dans le gigantesque projet Northvolt. Et c'est le ministre Fitzgibbon qui a répondu.
Oui, c'était une question de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui lui disait, même les gens de Northvolt commencent à dire, oui, mais on peut bien construire l'usine, là, mais on va manquer de main-d'œuvre qualifiée, de logement, de mobilité. Et les deux systèmes de jeu qui s'affrontent, Antoine, ici, c'est deux systèmes de jeu ou de pensée de comment arriver à du développement économique. L'approche traditionnelle, qui, je pense, est un peu plus risquée, c'est de dire, on essaie de choisir des gagnants, puis je décide à qui je donne de l'aide financière, en subvention, en prêt ou autre. Et ça nous oblige à choisir un gagnant, donc c'est très risqué. Puis on est toujours à risque qu'il y ait quelqu'un d'autre quelque part dans le monde qui va mettre plus d'argent sur la table, puis là, tu peux perdre toute ta mise. L'approche que je préfère, transparence totale, c'est plutôt de travailler, non pas sur la venue des entreprises directement, mais de travailler sur les externalités qui vont rendre le territoire intéressant, avoir une population en santé, très éduquée, dans un cadre sécuritaire, dans un environnement fiscal qui est prévisible, responsable, avoir du transport en commun, avoir du logement, avoir des coûts d'énergie bas et disponibles. Ça, ce n'est pas des choses que tu peux délocaliser.
Mm-hmm.
Et l'idée, si on a fait juste compétitionner sur la subvention, on n'aura pas le chéquier assez gros pour accoter ce qui pourrait arriver. Ça, c'est plutôt, et ça revient aux missions essentielles du gouvernement. Alors peut-être que ça, c'est un système de jeu moins traditionnel, mais qui nous ramène proche des vraies missions et les missions les plus payantes.
L'autre risque, puis on va terminer là-dessus, c'est des terrains qui sont vendus 20 fois le prix. Là. C'est complètement fou, cette histoire-là, de profit de 200 millions sur un terrain que des gens ont vendu pour l'usine Northvolt. On peut écouter, d'ailleurs, le ministre Fitzgibbon qui nous explique que tout ça, c'est une goutte d'eau dans un océan de subventions.
De dire que c'est l'argent public qui finance le terrain, il y a effectivement 810 millions de subventions pour 7 milliards. Dans le 7 milliards, le terrain représente une très petite partie, à peu près 3 %. Donc, je pense qu'on va, on doit laisser les entreprises faire leur propre négociation. Ce n'est pas au gouvernement ni à Investissement Québec de négocier le prix des terrains.
Mais là-dessus, Antoine, je pense qu'à tout le moins, M. Fitzgibbon a raison sur l'ensemble. On décide de subventionner ou pas un projet, puis après ça, bien, c'est le porteur du projet qui s'organise pour se construire une usine, pour acheter un terrain. Là, on se dit, bien, peut-être qu'on n'a pas choisi les bons joueurs parce qu'ils ont l'air de payer très, très cher le pied carré. Mm. À un moment donné, l'évaluation, elle a été faite en amont. On ne paye pas plus cher, nous, du Québec, parce que le terrain a été acheté très, très cher. Par contre, est-ce que Nordvolt va sortir autant de jus de batterie que nécessaire, mm-hmm. même s'ils ont payé si cher pour le terrain? Bien, ça, on va le voir plus tard.
C'est quoi, ils ont payé cher en maudit. C'est vraiment étonnant. Merci beaucoup, Guillaume. On se reparle demain.
Au plaisir.
OK, à demain.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Et bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine Robitaille.
Bonjour Patrick Bellerose.
Bonjour Antoine.
Tous deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Geneviève, on a une controverse de Noël.
Oui, que serait Noël sans une controverse de Noël?
C'est classique.
Au Parlement, chaque année, donne son lot de controverses de Noël.
Absolument.
Faut-il se souhaiter joyeux Noël ou plus laïquement joyeuse fête? Ou le sapin Noël est-il une entorse à la laïcité? On s'est posé ces questions-là pratiquement chaque année.
Mais je me souviens, en 2007, ça a commencé, cette affaire-là.
Ben oui, alors...
Avec les accommodements raisonnables.
Donc, cette année ne fait pas exception.
Il y avait un communiqué avec l'arbre des fêtes.
Oui, exactement.
Ça avait fait scandale. Puis là, Jean Charest avait souhaité joyeux Noël. Puis... Oui, oui, oui.
Alors, on est dans une nouvelle controverse de Noël cette année.
Qu'est-ce que c'est?
Aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale ont volé au secours de la fête de Noël aujourd'hui. Ils ont voté une motion pour dénoncer la position de la Commission canadienne des droits qui juge que les fêtes, les jours fériés de Noël, de Pâques, mais donc de Noël dans ce cas-ci, c'est discriminatoire à l'endroit des minorités religieuses. Donc, je pense qu'on peut entendre d'ailleurs le ministre Simon Jolet-Marette juste après le vote. Hein?
Écoutons-le.
Une motion qui est envoyée au Père Noël.
Écoutez, la Commission canadienne des droits a dit que Noël était discriminatoire, était colonialisme. Honnêtement, au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on ne s'excusera pas. C'est une fête qui est partagée. Les gens viennent de partout au Québec. On est une terre qui est accueillante. Et je pense que c'est important de dire que ça fait partie de la culture québécoise et d'inviter tout le monde à fêter Noël s'il le souhaite. Mais honnêtement, de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël est discriminatoire, il y a des limites.
Je présume que c'est ça parce que c'est une fête chrétienne, c'est
Oui, Patrick, c'est toi qui le questionnais, Simon-Jolin Barrette. Et puis, tu semblais surpris par la question. Tu avais mal entendu la motion, tout ça. Puis, tu semblais surpris qu'il veuille mordre là-dedans.
Écoute, c'est parce que, bon, quand on est dans les couloirs, parfois, on s'écrit rapidement. Puis, on se dit, il est arrivé telle chose en chambre. Tentez donc de ne pas réagir un ministre. Et on m'avait seulement écrit, l'Assemblée nationale vient de voter une motion pour le Père Noël.
Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Oui, c'est ça.
Parce que la motion, ils l'ont envoyée au Père Noël. Hein?
Oui, oui, c'est bel et bien envoyé au Père Noël. Alors, je trouvais ça très drôle, j'avais peu l'information, mais j'arrête le ministre Jolin Barrette en lui disant donc que vous avez envoyé une motion au Père Noël en pensant que ça va être un peu rigolo, puis qu'on va bien rire et avoir un petit commentaire. Et là, il devient très sérieux, et je comprends que le sujet est sérieux. Il me dit, c'est pas vrai qu'au Québec, on va s'empêcher de fêter Noël, et il explique la situation. Et c'est là que ça a pris une tournée, disons, plus sérieuse que prévu.
Geneviève, c'est quand même le ministre responsable de la lutte au racisme qui a déposé cette motion-là tout à l'heure, c'est-à-dire
oui,
ce matin.
Tout tout à fait. Puis la commission, je vous rappelle, là, c'est un rapport qui a été publié à la fin octobre. Ça a passé un petit peu sous le radar de beaucoup de monde. Mais il y a des gens qui ont relevé ça. Puis effectivement, moi, je suis allée lire le rapport tout à l'heure et la commission canadienne des droits juge que c'est une discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada. Puis c'est ancré dans l'histoire du colonialisme au Canada.
Oui, c'est ça.
Oui, donc...
Il y avait le mot colonialisme.
Exactement. Donc, c'est pas rien. Donc, le ministre Keith, qui est responsable de la lutte contre le racisme, a déposé la motion à l'Assemblée nationale. Puis, c'est vraiment intéressant parce que là, tout le monde s'est levé pour applaudir. Là, tout le monde a appuyé avec ferveur la motion. Même, ce qui était un peu drôle, on se demandait ce qui s'était passé. Gabriel Nadeau-Dubois, puis les solidaires se sont levés, là, mais tu sais, avec le poing levé, ouais, bravo, après la motion.
Pourtant, ils sont souvent étiquetés multiculturalistes, donc ils pourraient penser, on pourrait penser qu'eux autres, ils trouvent ça colonialiste, Noël.
Bien, j'ai vérifié ce qui s'est vraiment passé, en fait, sur le plancher du Salon Bleu. Puis en fait, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois s'est levé en disant « On a sauvé Noël! » Et alors là, c'est pour ça que les rires ont fusé de toutes parts, de tous côtés de la chambre. Et puis après ça, il y a le ministre, justement, Christopher Skeet, qui, dans le corridor, lui aussi, nous a accordé un petit mot là, pour nous parler de cette motion-là qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
On peut l'écouter.
Bien, écoutez, la Commission des droits de la personne canadienne essaie de dire aux Canadiens, puis par extension aux Québécois, que Noël, c'est raciste. Moi, je le pense pas, puis je pense que les Québécois sont avec moi. Merci.
Et Patrick, on t'entend à un moment donné dans le couloir dire « Mais c'est quand même une fête chrétienne? »
Oui, bien écoutez, je vais quand même souligner que c'est une fête chrétienne, parce que là, le ministre Keith voulait pas répondre en disant « Bien, au Québec, on célèbre Noël, mais je voulais souligner que c'est une fête chrétienne quand même. » Et le ministre a tourné les talons sans répondre. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent, écoute, c'est devenu au fil du temps une fête laïque où les gens, les Québécois, se rassemblent. Mmh. Mais il a préféré, disons, faire une déclaration rapide sans prendre de questions.
On se souvient que dans le rapport Bouchard-Taylor, il y en était question de ça. Les jours fériés qui coïncident avec des fêtes religieuses, c'était pas nécessairement dénoncé, non. C'était comme accepté comme patrimonial, si je me souviens bien.
Exactement. Puis c'est ce que la motion précise d'ailleurs aujourd'hui, que ça fait partie comme du patrimoine de la tradition au Québec de célébrer donc Noël. Mais c'est intéressant parce que tu me parles de la commission Bouchard-Taylor, mais justement, j'ai découvert qu'il n'y a pas que la Commission canadienne des droits qui juge ces jours fériés comme Noël discriminatoires, mais il y a aussi la Commission québécoise des droits et libertés. Oui, parce que sur son site, si on y va, très rapidement, on le trouve lorsqu'il est question d'accorder des accommodements raisonnables. Donc, elle aussi juge que c'est de la discrimination indirecte, le calendrier civique qu'on a au Québec, là, parce que il y aura potentiellement un effet préjudiciable sur les personnes qui appartiennent à des groupes religieux minoritaires dans le cas de Noël, de Pâques et de tout ce genre de toutes ces fêtes.
Aïe. Un dernier commentaire, Patrick?
Ben, c'est tellement, je veux souligner que c'est tellement un enjeu important que même à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a été questionné sur la question. On peut lire Hélène Buzetti, là, l'analyste au Coop de l'Info, qui tweetait cet après-midi en disant « Monsieur Trudeau a dit que bien sûr, il fallait célébrer Noël et que quand Yves-François Blanchet lui a demandé s'il était d'accord avec la Commission canadienne des droits de la personne, Monsieur Trudeau l'a ridiculisé. » Ce qui fait demander à Mme Buzetti, puis je suis quand même assez d'accord avec elle, on se demande si la commission va en prendre note et si la commission, disons, a un bel avenir devant elle quand le premier ministre ridiculise un rapport qui a été rendu public par cette commission.
Parlons d'Émilise Lessard-Terrien maintenant, la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, Geneviève.
Oui, aussitôt élue au poste de co-porte-parole de QS, aussitôt rentrée dans le rang. Hein? Puis je fais pas un jeu de mots avec le fait qu'elle soit agricultrice.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est Mme Lessard-Terrien qui pourfendait la position de son parti là, de continuer d'acheter de la publicité sur Facebook, finalement, se rallie à la décision des solidaires. Donc, il y avait Alexandre Leduc, le député, son collègue, son ancien collègue, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, qui hier avait dit que le parti n'avait pas le choix d'avoir recours à du placement publicitaire sur Meta, que c'était central. Et il avait même... Je pense qu'on a un extrait encore aujourd'hui.
Oui, Il avait dit quelque chose sur les pertes d'emploi à TVA. Écoutons-le.
Les personnes qui viennent d'être licenciées à TVA, là, c'est un problème structurant. Il faut trouver une solution structurante. C'est pas la campagne de boycott, pour ceux qui la font, c'est bien correct, mais c'est pas ça qui a fait en sorte de sauver les emplois à TVA. On va s'entendre là-dessus.
Alors, Alexandre Leduc nous a expliqué que c'était pas ça qui aurait sauvé les emplois à TVA, boycotté Facebook.
Non, puis aujourd'hui, le pendant masculin d'Émilie Le Sartérien, c'est-à-dire Gabriel Nadeau-Dubois, a fait savoir que l'arrivée de sa nouvelle collègue changerait rien à la décision du parti de continuer d'acheter de la publicité, de se payer de la publicité sur Facebook. C'est intéressant parce que moi, j'ai tenté évidemment de joindre Émilie aujourd'hui. Mmh. Et donc, quand elle dit qu'elle se rallie à la position du parti, évidemment, ça, c'est une déclaration qui m'a été envoyée par le parti. Hein? J'ai dû passer par le parti. C'est une déclaration écrite qu'on m'a envoyée. Et elle n'était pas disponible aujourd'hui pour me parler. Mais je vous rappelle que c'est parce que lorsqu'elle faisait campagne pour le porte-parole, le poste de porte-parole féminin de Québec solidaire, elle avait pourfendu la décision du parti. Là.
Absolument.
Et donc, c'est un revirement de situation, évidemment. On verra comment les solidaires vont réagir.
Patrick, Magali Picard de la FTQ, tu nous en parlais hier. Tu y avais parlé deux fois à Dubaï, donc le président de la FTQ. Elle a bien fait de rentrer au pays?
Oui, elle a bien fait. Écoute, Antoine, imagine-toi faire 14 heures de vol d'avion Montréal-Dubaï, arriver à l'hôtel, même pas avoir le temps d'ouvrir ta valise. On dit, faut que tu rentres, tu refais un autre 14 heures d'avion, et quand tu débarques, la présidente du Conseil du Trésor te dit, viens à Québec parce qu'il y a une rencontre au sommet avec l'ensemble du Front commun. Je crois que Mme Picard va bien dormir cette nuit après la rencontre. Écoute, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir.
Elle a été en entrevue toute la journée, hein, je pense. Je la voyais tout le temps, oui. Quelque part.
Ben, en fait,
toi, tu l'avais eu en exclusivité hier.
Mon collègue Yves Poirier, oui, de TVA, était là pour l'attendre avec une première entrevue.
Oui.
Et ça s'est poursuivi par la suite. On a plus d'attente pour ce qui est de l'issue de la rencontre. Là, ça va pas se régler ce soir, que personne soit au bout de son siège pour ça. De part et d'autre, on nous a dit, écoutez, c'est une rencontre pour faire une mise à jour. Par contre, on sent que les grèves qui ont été annoncées pour la semaine prochaine, tant du Front commun que de la FIC, et on se rappelle que la FE est déjà en grève générale limitée, on sent que ça fait bouger les choses quand même un petit peu. Ça bouge pas vite. Mais il y a le sentiment d'urgence dont je parlais hier, là, qui n'était pas là, ben, commence à s'imposer un petit peu. Malgré tout, quand ils sont rentrés à la rencontre, les représentants du Front commun, donc la CSN, FTQ, CSQ et la PTS, nous ont dit, écoutez, on a quand même plus d'attente, je pense qu'on peut les écouter.
On est en direct en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre? Vous avez un peu baissé les attentes, M. Gingras, sur X aujourd'hui.
Pas baisser les attentes, j'ai juste dit qu'il ne fallait pas penser que ça va se régler ce soir. Tout ce que j'ai dit.
Et c'est pas la première rencontre qu'on a avec la présidente du Conseil du Trésor. Hein? Des mises à jour, on en a eu quelques-unes depuis le départ, mais c'est pas la première. Je pense que ce qu'Éric a voulu, et je suis d'accord avec lui, là, la négociation, ça se passe aux tables de négociation.
Mais l'objectif, c'est quoi, alors?
Oui. Mise à jour de part et d'autre.
On va discuter, on est là pour ça, avoir de bonnes discussions, on le dit depuis le début, ça se passe à la table de négo.
Quel message que vous passez à Mme Lebel?
On va
lui passer.
Bonne rencontre.
Merci.
Oui, c'est Magali Picard qu'on entendait dire merci à la fin de l'extrait.
Exactement. Écoute, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sur la table, mais en même temps, on a peine à croire qu'une telle rencontre ne va pas déboucher sur quelque chose. François Legault, ce matin, a dit « je veux que ça se règle ». Il vient de tweeter une rencontre qu'il y a eu avec Mme Lebel et le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il est accompagné aussi de son chef de cabinet, Martin Koskinen, de la secrétaire générale du gouvernement, Dominique Savoie. Et on a pris l'habitude au fil des ans de s'apercevoir que quand M. Legault tweet une photo comme ça d'une rencontre, c'est parce qu'il met la table sur des annonces qui s'en viennent. Donc, je pense qu'on peut voir des développements quand même assez rapidement.
Bien.
Ce qui m'étonne, par contre, dans cette rencontre-là,
oui,
c'est que c'est avec le Front commun et non pas avec la Fédération autonome de l'enseignement.
Mm-hmm.
Pourtant, c'est la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui est en grève générale illimitée. Donc, c'est les parents de ces enfants-là qui subissent la grève avec des enfants qui sont à la maison. Mm-hmm. On aurait pu penser que c'est de ce côté-là qu'on mettrait les bouchées doubles. Mais la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, nous a expliqué un peu plus tôt ce matin qu'il ne fallait pas y voir un message. On peut écouter l'enregistrement.
Bien, la rencontre, j'ai eu plusieurs rencontres avec les différents syndicats au cours de la négociation. Donc, ça va servir à faire l'état de la situation. On me posait la question tantôt pourquoi je rencontrais simplement le Front commun. Il faut comprendre que quand j'ai à rencontrer les syndicats, je les rencontre de façon séparée. La FIC, la FAE et le Front commun qui a décidé de se comporter comme une unité dans cette négociation-ci. Alors, il faut ne rien y lire ni de positif ou de négatif. La rencontre qui est prévue aujourd'hui est avec le Front commun. D'ailleurs, c'était un peu l'objet de ma demande de forum. À une certaine époque, vous vous rappellerez, au début de la rencontre, de la négociation, quand je disais « je veux faire les choses autrement et essayer d'asseoir tous les syndicats autour de la même table », autant dans nos rencontres qu'aux tables de négociation, ils ont refusé. Donc, quand j'ai allé rencontrer, je les rencontre séparément.
Donc, Antoine, une petite note d'espoir. Écoute, on n'est pas du tout rendu à régler les conventions collectives, mais pour les parents, pour les élèves, pour les patients aussi qui peuvent voir leur chirurgie reportée, il y a une petite note d'espoir. Peut-être que ça va se régler au cours des prochains jours, prochaines semaines.
Merci beaucoup, Patrick Bellerose.
Un plaisir.
Merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
Un plaisir.
Vous reviendrez, cher duo, du mercredi. Et je rappelle que vous êtes tous deux correspondants au bureau parlementaire du journal et du journal. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.